Bonjour, Didier Gougis est avec vous cette semaine et nous allons parler d'une part d'une conférence du CRC qui aura lieu le 17 novembre et d'autre part d'une journée que le service de formation organise sur la gestion des conflits dans l'Église. Et pour le premier sujet, nous aurons la participation de deux invités. Nous avons donc la chance d'avoir deux invités, Jean-Claude Becker, qui est membre du bureau du CRC, Centre de réflexion chrétienne, et son interlocuteur au téléphone. Bonjour messieurs.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors cette année, le Centre de réflexion chrétienne propose une série de conférences autour du thème « Oser la joie de vivre ». Ève Ricard est venue témoigner de son expérience, comment, alors qu'elle présente une maladie neurologique handicapante, elle travaille et elle trouve la joie de vivre dans son quotidien. Et jeudi 17 novembre, c'est à un autre type d'expérience que nous allons nous intéresser, celle des oasis. Mathieu Labonne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes coordinateur du projet Oasis. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les oasis ?
Alors, les oasis, ce sont des lieux. En fait, donc, c'est un concept déjà créé par Pierre Rabhi il y a un peu plus de 20 ans. Les oasis, ce sont des lieux de vie ou de ressources qui incarnent en fait des différentes intentions, à la fois des intentions de mode de vie écologique, au travers de sobriété énergétique, de souveraineté alimentaire, et aussi des lieux qui incarnent une démarche de partage et de mutualisation. Donc typiquement, ce sont par exemple des éco-villages ou des éco-hameaux, c'est-à-dire des lieux où des personnes font le choix ensemble de créer un lieu de vie collectif, tourné vers un mode de vie écologique, mais où ils décident de créer des espaces collectifs, c'est-à-dire de mutualiser des lieux pour finalement mieux vivre et de façon plus économique.
D'accord. Et les oasis sont nés comment ?
Alors bon, en fait, donc c'est un concept.
Ce projet-là, oui.
Oui, ce projet en fait a été relancé là par Colibri il y a à peu près 2 ans, mais en fait ça correspond aussi à un essor dans notre société d'une envie de vivre un peu autrement. Donc en fait il existe depuis toujours. Hein. Ce sont des lieux un peu particuliers qui ont une démarche d'autonomie, de convivialité, de partage. Nous, dans la société, on a pu voir que de plus en plus de gens aspiraient à vivre de façon moins individualiste, de recréer du lien social dans leur propre mode de vie. Et du coup, voilà, donc là, on accompagne plusieurs centaines de projets qui ont émergé depuis 2 ans maintenant.
Oui, et les premiers sont nés dans une région particulière, est-ce que...
Non, alors historiquement, en fait, il y a quand même des lieux assez reconnus en France, voilà, donc ils sont un peu les pionniers de cette démarche. Donc il y a par exemple Hameau des Buis en Ardèche, des lieux comme Habitat dans la Drôme, des lieux comme Écolines dans les Vosges, on en a un peu partout. C'est vrai que c'est beaucoup des lieux qui ont émergé plutôt dans le sud-est.
Oui.
Mais en fait maintenant ça se trouve partout. Il y a des lieux en Bretagne, il y a aussi quelques lieux un peu historiques en Bretagne.
Et est-ce que, avec ce que vous nous dites, on pourrait penser que les oasis c'est réservé à un milieu rural, agricole?
Alors historiquement les premiers oasis c'est effectivement milieu rural. De plus en plus la démarche est aussi devenue urbaine, notamment avec ce qu'on appelle l'habitat participatif, où en ville l'accès au foncier est tellement complexe que le fait de pouvoir créer des espaces, les mutualiser, c'est ce qu'on appelle de l'autopromotion, permet en fait de diminuer les coûts pour des logements. Et du coup, des personnes, notamment à Strasbourg c'est vraiment une ville pionnière pour l'habitat participatif, parce qu'il y a maintenant une bonne quinzaine de projets sur place qui créent des lieux, des oasis, en milieu urbain et très contraint foncièrement.
Alors, oasis, on associe ça au désert, quelques palmiers, un petit peu d'eau. Le terme oasis, c'est parce que notre société, notre mode de vie devient un petit peu difficilement vivable, invivable, un peu comme ces déserts africains.
Alors, c'est pas tellement l'idée de profiter pour un désert, c'est plutôt l'image de Pierre Rabhi qui avait grandi dans le désert, dans une oasis lui-même, dans le sud algérien, et qui avait ce souvenir des oasis, qui sont des lieux extrêmement fertiles, des lieux qui sont souvent autonomes, notamment au niveau alimentaire, puisque voilà, effectivement, on ne peut pas tellement acheminer beaucoup de produits dans une oasis. Et ce sont aussi des lieux où il y avait une convivialité, une joie de vivre, c'était des lieux de rencontre. Donc lui, plutôt que de voir c'était comme un désert, c'est plutôt qu'il voyait vraiment ces lieux de convivialité comme des espaces de ressourcement pour toute la société. Donc si vous voulez, une oasis, c'est un lieu où on se retrouve, où on partage. Voilà. Et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, on a besoin de retrouver ce genre de lieu.
Voilà. Donc, les oasis proposent un espèce de contre-modèle à notre société, avec son individualisme, son désir de consommation un peu effréné.
Alors, il n'y a pas forcément un schéma type d'oasis. Nous, pour nous, oasis, ce n'est pas un label ou c'est pas un modèle figé. C'est vraiment plus une intention. Donc, en fait, il y a autant d'oasis différentes qu'il y a de projets. Donc, ça a été aussi plus ou moins ambitieuse. Ce qui est sûr, c'est que ça répond à une intention qui va un peu à contre-courant du modèle individualiste d'aujourd'hui, qui est celle de se dire, dans mon mode de vie, il y a des choses qui sont de l'ordre de mon intimité, celle de ma famille. Par exemple, évidemment, on mutualise rarement des chambres ou une salle à manger. Par contre, je peux mutualiser des espaces, par exemple des laveries, des chambres d'amis, des salles de jeux pour enfants, qui permettent de moins construire et de moins avoir d'espace à moi, mais finalement de bénéficier de plus d'espace, mais qui sont à gérer collectivement. Donc à la fois, c'est une démarche qui permet d'avoir plus en dépensant moins, mais qui demande pour ça de faire un travail et d'accepter de se mettre au service d'un collectif. Donc le vrai enjeu des oasis, c'est comment est-ce que, voilà, au travers du facteur humain, au travers de retrouver cette envie de partager et de vivre ensemble, on crée un art de vivre, un mode de vie qui soit finalement plus agréable, mais qui demande de faire des efforts.
Oui. Et les oasis, elles existent en Eure-et-Loir?
Alors, il y en a peu en Eure-et-Loir, il y en a sans doute qui existent, hein, je ne les connais pas forcément toutes. Je sais qu'il y a un projet d'état participatif à Chartres qui existe. Moi, pour ma part, je suis en train de monter un projet d'éco-hameau à Pongouin, donc à l'ouest de l'Eure-et-Loir, pour un projet de 27 familles qui s'intéressent sur un terrain de 4 hectares et qui veulent construire une espèce de petit lotissement écologique où on mutualiserait quelques bâtiments, où on ferait de la phytoépuration pour traiter nos eaux usées, où on aurait beaucoup d'espace aussi agricole de production en permaculture. Donc voilà, donc ce serait un des projets pionniers en Eure-et-Loir. Et en plus, qui serait un projet d'une paille assez grande, parce que 27 logements, c'est très rare.
Oui. Habituellement, c'est quoi? 4, 5 personnes? Alors, 5 familles?
En fait, nous, on voit vraiment qu'il y a un seuil à 10, 12 logements. Donc, il y a pas mal de projets qui sont assez simples à mener en dessous. Je veux dire, finalement, 5, 6, 8 logements. Après, des projets qui dépassent une dizaine de logements, il y a moins d'une dizaine en France actuellement.
D'accord, oui. Alors, finalement, est-ce que les oasis peuvent-elles être des sources de joie pour ceux qui y vivent?
Je pense que c'est ce que peuvent témoigner la plupart des habitants de ce genre de lieu. Alors, personne ne dira que c'est facile, puisque ça demande effectivement un travail sur soi et puis rencontre de l'autre dans son mode de vie. Et en même temps, ça permet de recréer du lien social, donc de recréer des formes de convivialité, de solidarité aussi. Donc c'est souvent, oui, des sources de joie, en tout cas une source d'une vie qui est relativement intense, d'une vie qui est moins isolée, qui est plus en lien. Donc en tout cas, les gens qui font ce choix-là souvent témoignent à la fois d'un côté du fait que c'est une démarche qui demande de faire des efforts, qui est difficile, mais en même temps, pour rien au monde, ils feraient autre chose maintenant.
Très bien. Mathieu Jabonne, merci. Donc, je rappelle, vous êtes coordinateur du projet Oasis. Et pour en savoir plus, eh bien, on se donne rendez-vous jeudi 17 novembre à 20h30 à la Visitation pour partager cette expérience de l'agir ensemble au sein des Oasis du mouvement Colibri.
Merci, messieurs. Je vais maintenant évoquer avec vous une journée de formation qui aura lieu le mardi 22 novembre à la Visitation à Chartres. Elle s'intitule « Gérer les conflits en Église ». Nous le savons, dès qu'il y a des personnes en relation, il y a des possibilités ou des risques de conflit. Et le pire, ce serait de les ignorer ou de les nier. C'est alors qu'ils vont s'envenimer et devenir explosifs. Le but de cette journée est donc d'apprendre à repérer les conflits assez tôt pour agir, voire pour les prévenir. Mais aussi d'expérimenter plusieurs méthodes pour les gérer une fois qu'ils sont identifiés. Pour ce faire, le service diocésain de formation co-anime la journée avec Marc Pelcé, qui est formateur à l'Église protestante unie de France. Nous verrons ensemble les différentes formes de conflits et nous nous appuierons sur la Bible d'une part, sur les sciences humaines d'autre part, pour faire émerger principes et méthodes de gestion des conflits. Je vous rappelle donc la conférence de Mathieu Labonne sur les oasis du mouvement Colibri organisée par le CRC le jeudi 17 novembre à 20h30 à la Visitation à Chartres et la journée de formation « Gérer les conflits dans l'Église » le mardi 22 novembre de 9h à 16h30 à la Visitation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le service formation par mail formation@diocesechartres.com ou au 02 37 88 00 18. Vous trouverez toutes les informations sur le site du diocèse, diocesechartres.com, à la rubrique formation. Je vous rappelle que cette émission est diffusée le lundi à 10h15, le mercredi à 16h15 et rediffusée le vendredi à 7h. Et bien sûr, vous pouvez l'écouter ou la télécharger partout et à toute heure sur radiograndciel.fr. Au revoir et merci à Simon qui a assuré la technique de cette émission. Et à bientôt sur Radio Grand Ciel.